Bienvenue dans C'est de la locale, il est 18h, nous sommes en direct jusqu'à 19h. Ce soir, je suis avec Héloïse.
Salut.
Je suis aussi avec Thomas.
Oui, bonsoir.
Et Julien.
Bonsoir.
Vous pouvez nous écouter aux alentours d'Alençon sur 90FM et dans le reste du monde sur notre site internet radiopulse.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre et communiquer avec nous via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Discord et Facebook. Toutes les actus, les albums à gagner sont sur la page Facebook, c'est de la locale. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des nouveautés, des thèmes de l'émission à l'avance.
Et aujourd'hui, un peu de rap avec le groupe de rap espagnol Tribad qui est composé de 3 rappeuses et du DJ Big Mark. Je vous laisse avec le titre qui se nomme Purga, sorti de leur album qui se nomme lui Las Derechetradadas. Je parle aussi bien espagnol que je parle en anglais, les gars.
Comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder del control de los privilegios mi clase mi raza mi cuerpo mi biología mi saludo no mental mi forma funcional mi orientación sexual mi género mi expresión de mi forma de amar mi visión del espacio el tiempo quién tiene más quién tiene menos quién señala a quién descubrí tus monstruos y ahora me llamo Diana, madrina no te aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepta mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me quedo callada cuando hablaré la justicia. Ave María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida. Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca, no tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, ¿me explico? Tanto feminismo para un desierto normativo. Tanto discursito pero al final intoxico. Se han roto relaciones. A ratos empatizado, a veces a las compañeras las he cuestionado, por el amor sí, pero del mal llevado.
Santa María, madre de todo, ruega por nosotras pecadoras en confesión. Hoy oprimida, sí, mañana opresora, no soy digna al feminismo, darme la excomunión.
Que soy una aro blanca, a veces escribí insultos por la cara. Me tardé mucho con el que no cambiaba. Yo fallé con machos, con un frío de atravesaje. Sé que pecaré de ser traidor, no ver lo que viven los demás. Siempre llorar lo que aún no he alcanzado. Y aún me gané las enemigas generando violencia entre las mías. Soy de las que critica por sexualizar el cuerpo y olvidar ser listas como college.
Quiero ser pobre, quiero que me valoren. Voy a reventarme la voz en 2 meses y luego ni se acuerden que esta vez come. Quéjate 24/7, obsesionada por el arte. Quiero ser perfecta, pero sé que eso no existe.
Hegemonía blanca, solo te mira y ya te callas. Esconden al papa, que es el que paga. Apunta a la nueva y no al que dispara.
Boom. Vétame de tu ocupa, roja como Angela. Cajela mis ideas, cuántas de clase obrera. Interpélame, pero amorosamente. Nadie nace feminista, nadie nace consciente. Destiérrame, si ya lo he confesado. Lanza tú la piedra, nadie libre patriarcado.
No me compares, no lo compares con un tío cis que pretenda violarte. No hablamos de dejarlo pasar, es acompañarse. Saber diferenciar la posición no es ejercer. Prima, yo estoy haciendo arte para regalarte. Somos precarias, no cuestiones que exija mi parte. Que pa' cagarla sobra tiempo, me pongo en la lista. Bájame del pedestal, soy mala feminista.
Traidoras no hay piedad.
Ha llegado vuestro final.
Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est les testicides.
Oh,
faut arrêter les testicides.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Alors Andrea, peux-tu te présenter?
Alors oui, je m'appelle Andrea, je suis étudiante en psychologie à Caen. Actuellement, je fais mes études sur Caen et j'habite sur Caen dans l'appartement Crous. Et puis, dans le projet à l'avenir de faire des études en psychomotricité.
Et pourquoi avoir choisi de faire une licence psychologique?
D'abord, je dirais que je ne voulais. Enfin, on va dire que de base, je voulais faire kiné. Et puis, finalement, je me suis retranchée sur la psychologie parce que j'aimais bien. Tout ce qui traitait de l'humain et du social aussi. Et puis par la suite, j'ai découvert le métier de psychomotricien qui m'a beaucoup plu. Et comme j'étais en psychologie, la voie après, donc c'était psychomotricien.
D'accord. Et depuis quand es-tu en licence?
Ça va faire 3 ans. Erreur de parcours, j'ai redoublé une année.
Ok.
Et puis là, il me reste encore 1 an.
D'accord. Quels sont les principaux problèmes que tu peux rencontrer en tant qu'étudiante?
Donc là, avec la crise sanitaire, je dirais le distanciel. C'est très compliqué de rester concentré sur les études et sur le but que l'on s'est fixé, puisque il y a des problèmes de connexion, plein de problèmes sans passer par la connexion, mais sans passer... Par la crise sanitaire, c'est très compliqué d'être étudiante maintenant parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'aide déjà. Et puis quand on est loin de nos parents et tout, et qu'on n'a pas forcément des aides en termes d'argent, c'est compliqué.
Ouais, justement, les études ont un prix. Comment tu gères la précarité étudiante?
Comme on peut, on va dire. Parce que c'est assez compliqué parce que on va dire que pour ma part je suis boursière, j'ai de la chance, mais il y a tout un tas de choses à payer comme le loyer, la nourriture et puis d'autres choses à côté. Donc on fait comme on peut, mais on va dire que comme la plupart des étudiants, je vais pas beaucoup dans les bars parce que ça reste cher, et les sorties à côté je limite au maximum, et puis voilà.
Et aussi je pense que maintenant faut avoir un bon matériel, un ordinateur de qualité qui marche, enfin qui fonctionne bien, c'est une nécessité. Ça coûte hyper cher.
Ça oui. Là, on va dire que mon ordi m'a lâché, donc j'emprunte. Heureusement, on va dire à la fac de Caen, ça a été instauré avec la crise sanitaire, et qu'on a le droit d'emprunter des ordinateurs. Et heureusement, parce que mon ordinateur m'a lâché. Et puisque je n'ai pas l'argent nécessaire de côté, même si je travaille beaucoup l'été, tous les étés depuis mes 18 ans, je travaille. Et c'est assez compliqué. Et on va dire que, heureusement qu'ils mettent à disposition des emprunts d'ordinateurs, parce que sinon, là, actuellement, moi, je serais dans la catastrophe.
Es-tu favorable à l'instauration d'un salaire étudiant comme au Danemark?
J'en ai entendu parler vaguement. Je pense que oui, ce serait pas mal, parce que beaucoup d'étudiants ne peuvent pas travailler à côté. Et ceux qui le peuvent, malheureusement, ils abandonnent très très vite leurs études, parce que allier le travail étudiant et les études, c'est assez compliqué, parce que c'est une charge de travail assez dure, et émotionnelle aussi, parce que c'est assez dur de suivre sur les deux bouts, la fatigue rattrape toujours.
Et comment vos cours ont été impactés par la crise du Covid-19?
Nos cours, c'est sur une plateforme du campus, et c'est en distanciel, donc beaucoup de cours sont en distanciel, et on est sur des sites comme Zoom ou BBB, et mais beaucoup de choses ont été un peu changées, comme les travaux de groupe. Et malheureusement, des fois, les profs ne savent pas comment s'y prendre, ni réagencer les cours comme ils voulaient de base.
Est-ce que vous avez eu tous les cours ou il y a des cours qui sont du coup annulés parce que c'est impossible de les faire par visioconférence?
Oui, parce qu'on a des cours, en fait, c'est des expériences. Comme en psychologie, on travaille beaucoup sur des expérimentations. Toutes les expériences où on doit être avec un groupe ou avec des personnes à deux ou à trois, ça a été complètement supprimé. Ou alors, on a juste le protocole pour nous montrer, en gros, ou des vidéos. On nous donne beaucoup de documentation, de vidéos et tout. Mais on va dire que ça ne fait pas pareil. Et les cours ont été réagencés un peu en mode distanciel, mais c'est assez compliqué. Des choses concrètes, on ne peut pas les voir, quoi.
Et donc, comment tu as fait pendant les deux confinements pour tes études?
Le premier confinement, j'étais sur mon année de redoublement, donc j'ai juste passé le premier semestre. Heureusement, ce n'était pas en distanciel. Donc là, pour le second confinement, j'étais beaucoup en distanciel et j'étais en période de partiel. Donc je travaillais beaucoup sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que même pour les vieux et tout, c'était un peu chiant. Mais non, j'ai essayé de m'accrocher au fait que c'était passager. Mais c'est vrai que c'était assez dur. Hein. On est enfermé et puis pour ma part, j'habite dans 20 mètres carrés. Donc passer un confinement entier dans 20 mètres carrés, je vous laisse imaginer.
Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'étudiants qui ont décroché à cause du Covid justement dans ta promo?
J'en connais pas, mais j'ai un ami qui a beaucoup de mal, qui m'a fait part de ses difficultés, qui me disait que c'était compliqué, qu'il hésitait à abandonner. Et comme on est un petit groupe de quatre, on essayait de se souder pour dire non, mais c'est passager et tout. Mais c'est vrai que c'est assez dur. Et puis, il y a une fille, là, actuellement, qui veut se réorienter. Je pense que c'est la crise sanitaire qui a contribué à son jugement.
Et comment vous passez les partiels? Est-ce que vous les passez en présentiel ou à distance? Parce que je sais que certaines promos, comme les STAPS par exemple, ils ont passé en présentiel.
Oui, les STAPS et les Psycho L1, en fait, ils ont favorisé plutôt les L1, puisque l'année dernière, on va pas se mentir, la L1 et la L2, c'est l'effet Covid qui les a fait passer, entre guillemets, on va dire. Parce qu'on est beaucoup, cette année on est 300 et quelques, alors que d'habitude on est beaucoup moins. Mmh. Et nous c'était en distanciel, L2, L3 c'est plutôt en distanciel, mais c'était des formats un peu similaires, les QCM, c'était des QCM bien agencés sur une heure où on ne pouvait pas revenir sur les questions précédentes ou de la rédaction, mais on avait toujours maximum 4 heures au lieu de 2 en présentiel. Donc sur cet aspect-là c'était pas mal, mais c'était compliqué je pense, parce que voilà quoi... En distanciel, c'est toujours plus compliqué d'être concentré.
Bah, je pense qu'en distanciel, c'est plus compliqué, mais il y a aussi le fait d'avoir Internet avec soi ou de pouvoir faire le partiel avec ses amis. Enfin, je sais que j'ai entendu des étudiants dire que du coup, ils se regroupaient et ils faisaient le partiel ensemble.
Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu drôle parce que moi, les partiels, je ne les ai pas vécus vraiment comme un examen, puisque on avait les cours à côté. Il y avait un peu le stress quand même de ne pas réussir, mais en soi, oui, on pouvait être avec nos amis ou être même en visio. Certains faisaient en visio comme ça quand ils s'entraidaient et tout. Mais c'était pour ça qu'il y a eu une augmentation des résultats qui était meilleure.
Oui, parce que passer son partiel à 4, c'est cool.
on va pas se mentir, un contrôle, c'est toujours stressant, mais quand on est avec les autres, c'est vrai que ça favorise un peu... la retombée du stress, on va dire.
Sur la santé mentale des jeunes, il y a un sondage qui montre une nette augmentation des cas de dépression, de tout ça. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, personnellement, ou par tes proches?
Clairement, pour ma part, je l'ai un peu ressenti. J'avais un peu le moral à zéro. Plusieurs fois, je me plaignais que j'allais abandonner parce que j'en avais marre. Hein. Enfin, c'est pas parce que je suis en psychologie que je dis ça, mais on a besoin d'être avec les gens, on a besoin d'être sociable, de voir des personnes et tout. Et c'est vrai que d'être complètement confiné et de voir personne, rien que dans les études, on est moins à fond parce qu'on voit personne. Enfin, aller en cours et discuter avec son voisin, c'est toujours plus agréable que d'être tout seul devant l'ordinateur. Et puis on est vite dérangé par l'entourage, par ce qui se passe autour.
Et puis, je trouve que c'est l'âge, quand on est en études, où on commence à se former professionnellement et socialement, et on rencontre plein de gens. Et là, au final, les étudiants qui arrivent dans des nouvelles villes, par exemple, si tu arrives à Caen, Nantes, Touraine, et que tu connais personne, au final, tu es juste dans ton appartement et tu n'as pas le temps de rencontrer des nouveaux amis, etc. Enfin, pour les gens qui sont en première année d'études, je trouve que c'est vraiment horrible.
Ah bah ça a cassé la dynamique, hein, clairement. Enfin, j'en ai vu des L1, ils arrivaient, ils s'imaginaient que ce serait campus en folie, alors que pas du tout, hein, pas de soirée, rien du tout. Même les soirées d'intégration, elles n'avaient pas lieu. Et c'était, ces soirées-là, c'était spécialement pour rencontrer des gens et tout, c'est assez sympa. Mais là, du coup, tout le monde, est, même les bars qui sont fermés, ça permet de faire des rencontres. Mmh. Bon, au final, les étudiants qui arrivent, bon, bah, ils sont tout seuls dans leurs 9 mètres carrés, c'est cool, mais hormis par la plante verte.
Merci Andrea pour ce petit témoignage. Gros big up à toi.
Et aujourd'hui, je vais vous parler de la FERAROC, qui est la Fédération des radios associatives des musiques actuelles. C'est une association de loi 1901 qui est née dans les débuts des années 90. Aujourd'hui, 29 radios associatives font partie de la FERAROC, dont Radio Pulse. Mais il y a aussi nos copains de Caen Radio 66 ou encore Radio Béton à Tours. Et bien d'autres encore dans toute la France, mais aussi chez nos voisins belges et amis canadiens. Tout ça pour vous dire que si vous souhaitez découvrir de nouveaux artistes et élargir votre culture musicale, ce qui est très important à faire, je vous conseille d'aller sur le site de la FERAROC et découvrir par exemple la playlist « Les meufs à la prod » signée Cindy Looper et Gégène Rustine par RCV Radio de Lille, animatrice DJ et artisane de la fête. Elle vous propose une sélection qui se nomme « Les meufs à la prod » qui sont de vraies pépites qui réjouiront tous les amateurs d'électro usant de leurs armes de programmatrice radio. Elles sont allées chercher et dénicher les artistes féminines de la scène électronique française. Tout de suite, je vous laisse écouter le titre, attention mon anglais, « Unwanted Guest » de Fantastic Twin Garden.
Unwanted guest, put my will to test. Let me in my own, let me in my own. Powerful magic, when I feel the kick hit, I wanna call it home, I wanna call it home. Looks through my chest, slowly burns the grass, slowly burns the grass. High pass all my pleasure, filtered emotions, squeeze another heartbeat before it gets too cold.
Yeah.
Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est testicide.
Oh.
Faut arrêter les testicides.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Sincèrement.
Donc vous avez déjà entendu Julien sur Radio Pulse, mais ce soir il vient pour la Croix-Rouge.
Oui, j'ai deux casquettes ce soir.
Yes. Multitâche, cet homme, multitâche. Du coup, quel est ton rôle principal à la Croix-Rouge ?
Alors, tu parles du rôle principal de la Croix-Rouge, de mon rôle à moi.
J'ai fait un check des deux questions.
Des deux ?
Donc, ton rôle à la Croix-Rouge et le rôle principal de la Croix-Rouge, c'est question d'après.
Donc, le rôle de la Croix-Rouge, c'est... Alors déjà, ça a été créé il y a fort longtemps. J'ai plus la date en tête, mais ça doit être les années 1800, quelque chose. Ça a été créé... pour faire face, du coup, pour aider les civils lors des conflits qu'il y a eu, et qui a surtout été utile durant la Première et Seconde Guerre mondiale. Et le rôle, c'est devenu plus que ça maintenant, c'est aussi un acteur économique majeur du territoire, et même de France. Voilà. Et moi, mon rôle à la Croix-Rouge, je suis responsable territorial de la communication et du développement des ressources. C'est un titre un peu long et pompeux, mais globalement...
Et... Pourquoi être engagé si jeune ?
J'ai pas fini ma question.
Ah.
Mais globalement, globalement, j'explique mon rôle. Je suis là pour, en gros, animer les territoires et que ce soit donc il y a les territoires dont je parle de Flers, d'Argentan, de La Ferté-Macé, d'Alençon, etc. Donc que ce soit au niveau de la communication et également aussi au niveau du recrutement parce que c'est moi aussi qui gère ça. Voilà.
Ok. Mais du coup, justement, tu es hyper jeune. T'as 18 ans.
Effectivement. Ouais. Effectivement.
Et je me dis, c'est rare, non, d'être aussi jeune et d'être engagé ?
Alors, rare, je ne sais pas, probablement oui. Mais en tout cas, ouais, je me suis engagé à la Croix-Rouge alors que j'avais 17 ans. C'était en septembre l'année dernière. Et pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que la première... Et en fait, j'ai connu la Croix-Rouge tout simplement parce que j'avais un ami dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, qui faisait partie de la Croix-Rouge de Nanterre. Et il en était très fier, il partageait ce qu'il faisait. Du coup, je me suis un peu penché dessus. Et j'étais aussi... Enfin, du coup, la seconde raison, c'est que j'étais aussi à une période de ma vie où j'étais pas vraiment bien du tout. Et je me suis peut-être dit qu'aider les autres, ça pourrait me permettre de m'aider moi. Et ça a été le cas, du coup. Et voilà. Du coup.
Très bonne solution. Quelles sont les actions de la Croix-Rouge sur Alençon ?
On a plusieurs actions. On a la Vestiboutique qui est rue de la Demi-Lune. On a les maraudes. On a le Samu social qui va avec. On a les postes de secours. On a aussi Camino. Camino, c'est une aide au transport en fait des personnes âgées vers des restaurants, mais du coup qui est suspendue à cause du Covid.
Okay. Et est-ce que tout le monde peut être bénévole à la Croix-Rouge française? Même sans formation premier secours?
Bien sûr, en fait, tout le monde peut être bénévole. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin du tout de formation pour entrer à la Croix-Rouge, dans le sens où les formations sont faites en interne, tout simplement. Dès qu'un bénévole rentre au sein de la Croix-Rouge, les formations de secourisme on essaye de les former le plus rapidement pour qu'ils puissent intervenir s'il y a besoin.
Quel type de formation?
Alors, il y a plusieurs formations. Les formations en secourisme qui sont un peu grand public, c'est le PSC1, donc premier secours civique de niveau 1. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde, pour toutes les personnes qui veulent savoir comment faire les premiers secours, que faire en cas, d'attaque terroriste ou si une personne est blessée, je ne sais pas. Okay. Et il y a vraiment presque qui est plus spécialisé, donc vraiment là au niveau du secourisme, donc le PSE1 et le PSE2, donc c'est le premier secours en équipe de niveau 1 et le premier secours en équipe de niveau 2. Et ça, c'est vraiment... c'est avec ces formations, en fait, on peut faire des postes de secours, donc on est aussi amené à aller dans des ambulances ou faire du transport tout simplement de personnes. Voilà.
Et est-ce que la Croix-Rouge, elle a des projets pour 2021?
Alors, les projets pour 2021, ce serait... On n'en a pas vraiment, mais ce serait plus de faire plus de secourisme, pardon, mais avec le Covid, c'est un peu compliqué, malheureusement.
Quels sont vos locaux et moyens sur Alençon?
Donc, on a déménagé très récemment. On était situé rue de Lille, à côté du Champ-Perrier. Maintenant, on est rue de la Demi-Lune, c'est à côté de, que je ne dis pas de bêtises, vers la Lotoile, il me semble. Donc nos moyens, maintenant on a des locaux beaucoup plus grands, donc ça permet une meilleure distribution alimentaire, plus de place pour la Vestiboutique et puis aussi pour les postes de secours, donc on a des lots de secours, vraiment c'est axé secourisme mais en même temps aide sociale.
Ok. Et est-ce que vous êtes plus actif à une certaine période de l'année, par exemple en hiver, je sais pas, pour aider les personnes sans domicile fixe par exemple, ou je ne sais pas?
Ouais, on est plus actif en hiver, dans le sens où on a les maraudes hivernales qui commencent à partir du mois de mi-novembre, et du coup les maraudes hivernales, vraiment, on est en plein milieu. D'ailleurs, il y a une équipe de bénévoles qui sont dans les rues d'Alençon, donc si vous m'entendez, gros big up à vous, des bisous. On est un peu plus présent en hiver qu'en été.
Ok, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule les maraudes justement?
Donc en fait, on se rejoint au local, on prépare tout ce qu'il y a à préparer, du coup, que ce soit les cafés, que ce soit les soupes, on prend tout le matériel qu'on a besoin, on prend à manger, on prend aussi, du coup, il y avait les cadeaux là pour le mois de décembre. Que les gens, enfin, c'était des boîtes solidaires que les gens avaient donné à la Croix-Rouge pour qu'on les distribue aux personnes sans domicile fixe. Et donc on prépare tout ça, on met ça dans le 9 places, donc c'est un camion en fait, 9 places simplement, et on part dans les rues d'Alençon. Donc on vagabonde un peu, on a un peu nos endroits, on sait qu'il y a des personnes sans domicile fixe ou même des marginaux. Et donc on va à leur rencontre, on leur parle, parce que le contact c'est très très important. Les personnes sans domicile fixe sont souvent ignorées de tout le monde. Enfin, je jette la pierre à personne bien évidemment, parce que moi aussi avant j'étais comme ça, je passais à côté sans même les regarder. Et quand on se penche dessus, quand on prend le temps de les connaître, on se rend compte que évidemment c'est la vie qui leur a pas. Qui n'a pas été très sympa avec eux, et du coup on essaie de les orienter vers les différentes aides, donc des assistantes sociales ou vers le CCAS d'Alençon par exemple.
D'accord.
Et comment est-il possible d'aider la Croix-Rouge sans être bénévole?
Il y a plusieurs moyens d'aider la Croix-Rouge. C'est devenu clair d'un coup. Le plus simple, c'est évidemment avec de l'argent, parce que l'argent c'est un peu le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de temps... pour à donner pour la Croix-Rouge, il y a des dons. et les dons peuvent fonctionner. Donc ça peut être des dons d'argent ou alors des dons aussi de vêtements pour la vessie boutique. Ça permet de revendre à les personnes qui, dans le besoin, à de très bas prix.
Et est-ce qu'il est possible de parfois participer à des actions sans être bénévole, juste venir une fois parce qu'un week-end on avait du temps ou un week-end on avait envie, ou c'est pas possible?
Je pense pas du tout que ce soit possible, parce qu'il faut être dans la Croix-Rouge, il y a des cotisations. Je pense pas, il faudrait que je me renseigne, mais non, enfin je crois pas.
Est-ce que tu sais le nombre de personnes, par exemple, sans domicile fixe? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans Alençon ou pas? Parce que je pense qu'on se rend pas compte.
Alors moi non plus, je me rendais pas compte quand j'ai commencé les maraudes. Je me rendais pas compte, mais il y en a pas mal, on croise environ une dizaine de personnes par maraude. Et puis toutes les personnes qu'on ne croise pas mais qu'on sait qu'elles sont là, il y a des marginaux ou des personnes qui dorment dans des squats ou des sans domicile fixe habituels finalement, et il y en a pas mal, et il y en a beaucoup plus en hiver.
Sur quel type d'événement la Croix-Rouge intervient lorsqu'il n'y a pas de Covid par exemple?
En temps normal, on peut intervenir sur plusieurs secteurs, que ce soit au niveau des formations de secourisme. On peut aussi intervenir sur les postes de secours. Donc, c'est-à-dire que des personnes peuvent nous contacter pour des événements sportifs ou même des concerts, ou enfin, peu importe. Et on fera un DPS, donc un dispositif prévisionnel de secourisme. Donc ça, c'est vraiment la partie de tout ce qui est importante et que les gens connaissent en général, parce que souvent dans les grands événements il y a la Croix-Rouge, dans les festivals il y a la Croix-Rouge aussi, qui est là pour assurer la sécurité. Et sinon, en temps normal on est après avec la distribution alimentaire ou la vessie boutique.
D'accord.
Et pendant le confinement, la Croix-Rouge était toujours active?
On a été beaucoup plus actifs pendant le confinement. Alors, les maraudes se sont arrêtées à Alençon, mais en tout cas, que ce soit au niveau national, les maraudes ont continué dans certaines régions parce que le besoin était toujours là. Il y a eu de nouvelles choses qui ont été mises en place, comme la Croix-Rouge chez vous. Donc, ça permet toujours d'ailleurs aux personnes qui ont besoin de courses mais qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont des personnes fragiles ou autres, d'ailleurs, que ce soit leurs courses ou les médicaments, on pouvait leur apporter chez eux directement. Et on a aussi mis en place à Alençon un endroit en fait où il y a les malades du Covid qui sont à l'intérieur, et c'est dans un hôtel, et en fait on les soigne, en fait on les surveille, on les soigne.
Ok. Et comment tu donnerais envie à des jeunes par exemple d'aller à la Croix-Rouge?
C'est une question un peu compliquée, mais ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais très sincèrement, il faut vraiment découvrir, parce que c'est une aventure qui est extraordinaire. J'ai trouvé une seconde famille simplement en étant à la Croix-Rouge. Et je ne sais pas, aider les autres et se sentir utile, ça fait un bien fou, vraiment.
Je pense que ça doit un peu ouvrir l'esprit justement sur le monde. Tu parlais d'aider les autres, mais je pense que ça ouvre l'esprit aux jeunes.
Ça ouvre complètement l'esprit parce qu'on croise des choses qui sortent de notre quotidien. On n'est pas dans notre zone de confort, et voir la pauvreté vraiment de près et les conséquences que ça implique derrière, ça change complètement sa manière de réfléchir et même d'interagir avec le monde.
D'accord. Eh ben, merci Julien de nous avoir parlé de ton expérience à la Croix-Rouge.
Merci à vous.
Ça fait quoi de passer de la personne à la technique et à la personne interviewée? Ça fait un peu la star ou pas?
Un peu la star, mais bon, je suis qui, quoi? Personne? Non, c'est sympa, mais c'est bizarre en même temps, parce que là, je parle au nom d'une association. C'est bizarre, mais j'aime beaucoup.
Ok, bon, maintenant, on va passer à la musique. Ce soir, vous pouvez gagner l'album de Manu Digital qui se nomme Dub Trotter, car il a été créé dans les quatre coins de ce monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Ainsi. Et on va écouter le titre L'île au canard.
Thank you.
Et voilà, c'était Manu Digital, L'île au canard. J'espère que ça vous a plu.
Et ce soir, nous avons décidé de vous parler de nos chers ministres. Alors, vous allez vous dire, on va parler un peu politique. Mais non, mais c'est parce qu'ils nous font tous de superbes actions pour notre joli pays qu'est la France. Alors, Thomas, il nous a fait une petite liste.
Ah oui, parce que figurez-vous que j'ai reçu une alerte AFP sur mon téléphone disant que M. Sébastien Lecornu, notre ministre préféré, hein, a fait ce qu'on appelle une prise illégale d'intérêt, accompagné de son ami M. Moretti. Alors du coup, j'ai décidé de fouiller un peu, voir un peu toutes les belles actions qu'ils faisaient pour notre pays, tous ces ministres. Et j'ai pas été déçu, parce que figurez-vous que Éric Dupond-Moretti était aussi l'avocat de Karim Benzema pendant l'affaire de la sollicitation des prostituées mineures.
Grosse ambiance. Oh, génial.
Ah, c'est génial, moi, je trouve. C'est incroyable. Il a défendu un joueur de foot.
Mais c'est super.
Et attendez, parce que c'est pas la meilleure. Hein. Vous savez que Jean-Michel Blanquer, du coup notre ministre de l'Éducation, hein, a fait une tentative présumée, parce que ça n'a pas été prouvé, mais c'est selon Mediapart et Libération, donc je suppose que c'est plutôt correct, hein, de corruption d'un syndicat étudiant.
Sympa.
Comme c'est bizarre.
Oui. Super ça.
Et oui, parce que c'était pendant quoi? C'était pendant la dite réforme du bac. Il faut éviter que les étudiants gueulent parce que c'est chiant. Après, ils font des manifs et
ouais, tout. Ils flèment les blocus.
Bah non, parce que tu leur apprends des trucs, mais après, s'ils parlent, c'est pas terrible, tu vois. C'est pas très républicain.
Ah ouais, mais c'est chiant, quoi.
Ouais.
L'école de rêve.
Déjà, qu'être ministre, c'est chiant. Regardez Marlène Schiappa, elle s'est fait un lissage brésilien. On l'a fait chier. C'est un truc de dingue. En parlant de Marlène Schiappa, tu me disais quoi déjà sur les masques en off?
Ouais, alors, j'avais vu passer que Marlène Schiappa avait fait un plan de contre-produit aussi pour des masques que ses amis, enfin, que son amie fabriquait. Enfin, une de ses amies, parce qu'elle n'en a pas qu'une seule, je pense. Et c'était des masques qu'elle porte vraiment partout, avec un éclair rouge dessus, et elle le met partout. Et c'est un placement de produit, je pense, parce que la logique, c'était une amie. Elle le porte à toutes circonstances. Je sais pas si elle le lave, je sais pas si on en a plusieurs, mais en tout cas, elle est là.
Moi, c'est son placement de produit pour un coiffeur qui me.
Ah ouais, le listage.
Clairement, Marlène Schiappa, influenceuse ou ministre, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que par exemple, Mademoiselle Elisabeth Borne, je ne sais plus de quel ministère il s'agit.
Le transport public. Ah,
merci Julien.
Merci Stéphane Merde.
Est en conflit d'intérêts. Parce que apparemment, hein, vous savez, Madame Borne. Et la ministre, comme tu l'as dit, des transports.
Je crois que c'est transport ou armée. Oh, je sais plus. Non, c'est pas armée.
Elisabeth Borne.
Je crois que c'est pompiers
d'armée. Elisabeth Borne. Et la ministre. Et la ministre.
Ministre du travail. J'ai dit des conneries.
Non, ministre de l'écologie. Tu dis encore des conneries.
Vous êtes très bien renseigné sur le sujet.
Depuis 2020. Vous avez révisé ou pas?
2020.
Ministère du travail et ministère de l'écologie, elle a double casquette elle aussi, hein.
Ah ouais,
elle se met bien, sincèrement.
Ouais. Et bien, Elisabeth Borne, figurez-vous qu'elle a eu un conflit d'intérêts.
Sans blague.
Ah oui, mais je sais plus de quoi. C'est qu'elle l'a fait, ok?
Le sujet est bossé de bout en bout.
Elle l'a fait peut-être, non?
Mais bon, mais c'est présumé.
En tout cas, nous avons beaucoup d'accusations, mais est-ce qu'on parlerait pas du meilleur, de celui qui a fait la meilleure.
The GOAT, Gérald Darmanin.
C'est le boss final.
Mon GG Gérald Darmanin, accusé de viol. Ah, c'est tellement magnifique, j'adore, moi. Franchement, c'est beau.
C'est beau la France, vraiment, c'est beau la France.
Très sincèrement.
Parce qu'au final, le viol, c'est quoi? C'est qu'un rapport consenti que pour
une seule personne. Totalement, je suis d'accord avec toi.
Voilà, et c'est magnifique. C'était pourquoi? C'était pour un appart.
Un appartement, je crois,
ouais. C'était magnifique. Franchement, je te trouve ça vachement bien. On pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais l'émission fait qu'une heure.
La liste est longue.
Et puis, on va un peu arrêter de parler des merdeux qui gèrent ce pays. Hein. C'est bon, on a accordé assez d'importance ce soir, je trouve.
Donc, écoutez, pour vous calmer ce soir, j'ai envie de vous diffuser un de mes groupes préférés qui s'appelle Kaios. Je vais vous diffuser leur morceau Thumb, qui veut dire pouce en anglais. Me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est sorti le 30 juin 1992 sur l'album Blues of the Red Sun. Je vous laisse écouter
Pousser
tout de suite.
Les ministres dans la scène.
Et voilà, c'était Caius avec leur morceau Thumb sorti en 1992. 12, excusez-moi. Et on va vous présenter la musicale. À découvrir cette semaine sur les radios musicales de Normandie, Bungalow Dépression est un trio rouennais formé autour d'un violoniste, de la violoniste, pardon, Anne-Laure Labaste.
La musicale.
L'amicale des radios musicales de Normandie
vous présente le local de l'étape.
On s'appelle Bungalow Dépression, on vient de Rouen et on joue un genre de pop électronique expérimental. On a sorti le 27 novembre notre première LP de 7 titres qui s'appelle Blank Slate sur le label Sosa. Sur scène, on joue avec des synthés, des boîtes à rythme, de la guitare, de la basse, du violon qui est passé dans des effets, donc qui sonne plus tellement comme un violon, et aussi de la voix. On a sorti un premier clip au mois de mai, réalisé par Gaël Manac, sur le premier morceau de l'album qui s'appelle The World. Il y en a un deuxième en préparation, qui sera lui réalisé par Simon Frégé, et ce sera sur le morceau Hold Me, qui est un peu le tube à guitare de l'album. C'est un album qui passe par pas mal d'émotions différentes, et donc du coup on y trouve aussi bien des morceaux très éthérés, aériens, très ambiants, que des morceaux sonorités beaucoup plus industrielles avec des grosses boîtes à rythme et des gros synthés derrière. Sur toutes les plateformes d'écoute en streaming. Vous pouvez aussi l'acheter en digital sur le Bandcamp du label Sosa ou commander le vinyle. Bonne écoute et à bientôt. We'll be right back.
Et voilà, c'était Bungalow Dépression. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai bien aimé. Dites-moi
Marc,
ce que...
C'est toi qui as choisi.
C'est moi qui choisis. C'est bon. Calmez-vous. Écoutez, je suis légèrement déçu parce que vous avez tous parlé à notre cher Julien pendant l'interview.
C'est l'heure.
Moi, Julien, tu vois, j'avais envie de te dire des choses ce soir.
Je t'écoute. Dis-moi tout.
Écoute, ça fait plusieurs fois que je te vois passer dans le couloir. Quand je te vois, j'ai des petits papillons dans le ventre.
Oh.
Je me dis que j'ai envie de faire plus avec toi. J'ai envie que tu me prennes avec ardeur sur la photocopieuse. Je veux que tu me sentes près de toi. Julien, viens chez moi. Donne-moi le numéro de ta clé d'appartement. Viens à moi. S'il te plaît, Julien. Je t'en supplie. Viens à moi. As-tu quelque chose à dire, Julien ?
Chers auditeurs, j'accepte avec très grand plaisir ta proposition.
Ce soir, mes amis, j'ai
un
de la compagnie. Bon, écoutez, je pense qu'il faut arrêter les conneries au bout d'un moment, parce que mon patron va débouler d'une minute à l'autre. Écoutez, je crois que ça va être la fin de l'émission, ainsi que la fin de ma carrière.
Demain, je vais faire l'émission toute seule, les gars.
Et on ne t'en voudra pas.
C'est justifié.
Bon, allez, est-ce qu'on leur fait un gros bisou aux auditeurs ?
Ouais, à demain.
À demain.
Allez, bisous.
Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien.
On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est testicide.
Oh.
Faut arrêter le testicide.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est le testicide.
Oh.
Faut arrêter le testicide.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.